Donc on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'enfance de Jésus? Quand on lit dans les Actes des Apôtres, il y a une phrase qui dit « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit-Saint et de puissance. » On a vraiment l'impression que tout démarre au baptême. Et d'ailleurs, il y a un autre passage dans les Actes des Apôtres pour le remplacement de Judas, où on choisit Matthias en l'occurrence, qui était là depuis le baptême jusqu'à la résurrection du Seigneur. Donc on a vraiment l'impression que ce qui semble important, c'est la partie après le baptême, et donc finalement la vie publique, et pas tellement l'enfance ou la vie cachée. Pourtant, on a quand même deux évangélistes, Matthieu et Luc, qui consacrent leurs deux premiers chapitres de l'évangile à l'enfance de Jésus. Et puis, donc il y a Matthieu, il se réfère plutôt au témoignage des frères du Seigneur, donc il part plus du point de vue de Joseph, alors que Luc se réfère au témoignage marial, même s'il y a peu de chances qu'il ait vraiment eu ce témoignage directement de la Vierge Marie, mais en tout cas autour et par témoignage interposé depuis Marie. Et donc lui, il est vraiment centré sur l'expérience de Marie. Attendez. D'autres qu'il faut que je fasse rentrer. Bonjour. Vous avez le micro off, mais bonjour Michel, si je pense que c'est celui que je connais. Donc je viens juste de commencer. Donc on a donc un point de vue plus de Joseph et l'autre point de vue plus de Marie. Et puis on a principalement des événements autour de Noël, l'Épiphanie, etc. Et très très peu sur la vie cachée à Nazareth, puisqu'il y a un verset chez Saint-Luc. Voilà. Mais on voit que tous ces événements de l'enfance et de la vie cachée, ben, en fait, ils sont quand même importants pour comprendre Jésus, l'homme-Dieu. Et on va voir à travers différents aspects, notamment pour réaliser que l'incarnation, enfin que Jésus est Dieu dès l'incarnation, c'est pas comme les prophètes, il n'est pas sanctifié au baptême, l'Esprit Saint ne descend pas sur Jésus au baptême, mais c'est vraiment avant que ça se passe, c'est depuis l'origine, depuis sa conception. Et que c'est important aussi tout ce parcours, puisqu'il y a quand même 30 ans de vie cachée par rapport à 3 ans de vie publique, et 3 jours de passion, résurrection, enfin passion. Et du coup, il y a vraiment cette imprégnation de la vie humaine et la sanctifier un peu tout ce déroulement de la vie humaine et qui est aussi un dégage de notre salut. Et puis, les mystères de l'enfance de Jésus et de sa vie cachée, ça peut être aussi une source d'inspiration pour notre foi autour du mystère de l'enfance. Et notamment, je vous laisserai un texte à méditer, bon, qui est un peu long, on ne le fera pas ensemble, mais vous pourrez méditer après, de Charles de Foucault, qui a beaucoup mis en avant et beaucoup médité, puisqu'il a vécu à Nazareth, et beaucoup médité sur cette vie cachée du Christ. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est important que Jésus soit homme Dieu dès sa conception? Alors, on voit que Jésus s'inscrit dans l'histoire. On n'a pas un Dieu qui, tout d'un coup, se matérialise à l'époque adulte. Donc, on a vraiment toute une inscription dans l'histoire, alors qu'il y a deux titres. Premier titre, parce que Saint Matthieu commence par une généalogie. Donc, c'est un mode assez classique dans l'Antiquité. Et ça veut dire, quelque part, la genèse d'une personnalité qui s'appuie sur une origine pour dire pourquoi la personne est là et qu'est-ce qui va se dérouler. Donc ça s'inscrit dans une genèse et la généalogie est là pour montrer qu'il y a une origine. On n'est pas au milieu nulle part. Donc l'idée, c'est pas que cette généalogie est rigoureuse, parce que concrètement, quand on y remonte à Adam, et concrètement, il n'y a pas assez de générations pour vraiment faire, pour que ce soit réaliste. Mais par contre, elle dit cette filiation, et donc on est vraiment dans le peuple juif, et ça s'inscrit dans le temps. Voilà, il est de la maison de David par Joseph, fils de David. Donc sa naissance est aussi un événement qui est daté, localisé. Il y a beaucoup de références. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Ça, c'est pour Matthieu, mais Luc, il nous précisera aussi les choses. Et puis, saint Matthieu, il nous parle de la fuite en Égypte. Donc, on voit les localisations. Et puis, le retour à Nazareth. Donc, on a bien des mentions de lieux, c'est clair. Et on a une géographie et un temps donné. Alors, saint Luc, lui aussi, il est aussi sur les mêmes thématiques. Donc, lui, au temps d'Hérode le Grand. Donc ça tombe bien, les deux sont d'accord, roi de Judée. Et puis sur les lieux, il y a l'annonciation qui se passe à Nazareth. Et puis ensuite, Joseph qui monte à Bethléem, la référence au recensement. Donc on est aussi inscrit dans le temps, même si c'est difficile de savoir exactement quelle époque c'était exactement. Et puis cette référence aussi à la maison et la lignée de David. Et Saint-Luc aussi donne une petite généalogie qui remonte jusqu'à Adam. Donc lui aussi, il fait cette grande fresque du peuple juif et que cette humanité, elle n'est pas arrivée, l'humanité de Jésus, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée dans un temps et dans un peuple donné. Voilà. Et finalement, le fait de remonter jusqu'à Adam, c'est que ça dépasse aussi le peuple juif et que ça va concerner toute l'humanité entière. Et ça, on le verra aussi à la circoncision, à la présentation au temple. Donc, c'est aussi dans une deuxième dimension, le Messie attendu. Jésus s'inscrit aussi par rapport à une attente. La circoncision de Jésus, donc le huitième jour après sa naissance, en Luc 2, 21, est signe de son insertion dans le peuple de l'Alliance, de sa soumission à la loi. Donc il est circoncis comme, et offert comme tout premier, comme tout garçon premier-né. Donc on est vraiment dans le cadre de la loi et il s'inscrit dans tout le culte d'Israël, ce qu'il va faire tout au long de sa vie en allant à la synagogue et tout ça. Jésus est bien l'aboutissement du plan de Dieu qui, avec Abraham, se liait pour toujours à ce peuple. La circoncision bébé, là, huitième jour, ça préfigure aussi la circoncision du Christ qui est le baptême, qui est une autre forme de circonscription, de purification et de conversion vers le Seigneur. C'est aussi Siméon et Anne qui nous montrent toute l'attente d'Israël par rapport à l'arrivée du Messie. Et par rapport à ce sauveur. Voilà. D'ailleurs, cette fête, elle s'appelle aussi la rencontre dans la tradition byzantine, puisque c'est la rencontre de, finalement, l'ancienne alliance avec Siméon et Anne et de la nouvelle alliance avec Jésus et Marie. Jésus est reconnu comme le Messie attendu, lumière des nations, gloire d'Israël, mais aussi signe de contradiction. Et là, on a déjà la préfiguration de la croix avec le glaive de douleur prédit à Marie. Et puis quelque part cette oblation de Marie et de Jésus qui donnera le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples. Donc là on a aussi l'élargissement au-delà du peuple juif à tous les hommes. Alors il y a aussi toute la thématique du nom de Jésus qui est très important puisque ça se donne au moment de la circoncision. Et puis que le nom chez les juifs c'est très important pour dire la personne, on a parlé de la généalogie tout à l'heure, mais le nom c'est un peu le même poids. Et donc, le nom de Jésus, ce n'est pas juste pour le désigner, c'est aussi, il fait penser à Josué, donc c'est la même racine, Jésus, le successeur de Moïse, qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. Et quelque part, Jésus, c'est celui qui nous fera entrer dans la terre promise, le paradis, enfin le royaume de Dieu. Voilà. Et l'ange, dans l'apparition à Joseph, vient expliciter pourquoi est-ce qu'il lui demande de l'appeler Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Saint Matthieu, on a en plus 5 références à l'Ancien Testament qui sont explicites, donc en 2 chapitres. Donc c'est autant dire que sur la quantité, c'est beaucoup de références. Donc qui reparle du prophète avec la Vierge qui concevra et enfantera, une référence à Isaïe. Il y a une référence sur la partie Bethléem, terre de Juda, qui n'est pas le dernier des chefs-lieux de Juda. Il y a la référence sur le prophète, sur d'Égypte, j'ai appelé mon fils, donc qui préfigure quand il y a le retour de la fuite en Égypte pour après le massacre des saints innocents et quand il revient en Terre Sainte. Et puis la référence aussi pour les massacres des saints innocents, un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. Et une ville appelée Nazareth pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Toutes ces références que Matthieu fait à l'Ancien Testament ne sont pas toujours retrouvables à l'heure actuelle dans notre Ancien Testament, notamment il sera appelé Nazaréen, je ne crois pas qu'elle soit complètement explicite dit comme ça, mais en tout cas ça montre bien qu'il s'inscrit dans une histoire et dans une tradition et que Jésus est le Messie attendu et dès sa conception puisqu'on en est vraiment au début de l'évangile et donc Jésus est tout bébé. Et ça c'est très important parce que finalement c'est ce que nous montre la fête de l'Épiphanie qui en fait a été plus ancienne que Noël. On fêtait l'Épiphanie, en fait, dans les premiers temps de l'Église, puisque c'était non seulement la venue et l'incarnation de Jésus, mais la manifestation. C'est ce que veut dire Épiphanie, ça veut dire manifestation. Sachant qu'il y en a une autre, d'autres, et qu'on fêtait en même temps les trois Épiphanies que sont l'adoration des mages, le baptême au Jourdain, que nous avons eu hier avec la parole du Père, et puis le premier miracle à Cana, qui sont trois formes de manifestation que Jésus est Dieu, le roi, le Messie, et qui sont, d'ailleurs on l'a encore dans l'ancienne des Vêpres de l'Épiphanie, où on fait mention de ces trois aujourd'hui, avec ces trois manifestations en fait. Alors le risque de cette Épiphanie, c'est que finalement, notamment celle du baptême ou de premier miracle à Cana, c'est qu'on puisse dire que du coup, finalement, Jésus a été adopté adulte, on va dire, par le Père, et qu'en fait, on n'est pas un homme qui est saisi par l'Esprit-Saint bébé, mais qui est saisi par l'Esprit-Saint au moment du baptême, comme s'il était consacré et envoyé en mission au moment du baptême. Or, en fait, ce n'est pas du tout ce qui est le cas, et c'est ce que tout montre, tous les textes autour de Noël, et donc ces premiers chapitres de la vie de Jésus, où finalement, dès l'entrée, dès Noël, dès même la conception de Jésus, Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu venu incarné et venu dans ce monde. Donc c'est à la fois, c'est très humain, parce qu'on a un bébé, on a des tas de choses. Alors c'est intéressant de voir dans Saint-Luc, hein, il insiste sur des détails très prosaïques, il y a l'histoire du recensement, il y a la problématique du logement, il y a l'emmaillotement, donc la mangeoire, enfin donc tout ça, ce qui sont des choses très, très pragmatiques. Et puis aussi, en parallèle, des choses plus miraculeuses, la naissance virginale, donc l'Esprit-Saint viendra sur toi, donc c'est toute l'Annonciation. Il se rappelait fils de Dieu. C'est aussi les anges qui disent l'étonnant événement qui vient d'avoir lieu à Bethléem. L'ange du Seigneur se présenta devant c'est les bergers. Et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Donc on est dans une manifestation très... Voilà, c'est pas du tout une naissance classique. Et puis on a aussi les bénédictions de Siméon et Anne qui le reconnaissent comme des sauveurs. Donc on a à la fois du très prosaïque et du très concret, et en même temps du miraculeux qui insiste sur ces deux pans de Jésus qui sont vrai homme et vrai Dieu. Saint Matthieu montre aussi les particularités de la naissance, donc il parle de la virginité de Marie, voici que la Vierge concevra. Il parle aussi de l'adoration des mages, on a des mages venus d'Orient qui sont des rois, qui apportent des présents de roi et qui viennent adorer un enfant dans une étable, donc inconnu dans une ville, Bethléem, qui n'est même pas Jérusalem. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez incroyable, qui montre cette divinité du Christ. Et puis mention quand même de Saint Jean, qui ne parle pas de l'enfance de Jésus, lui, voilà, mais qui dans son prologue dit quand même quelque chose de ça. Et notamment, lui, il est dans le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de l'événement humain de la naissance d'un enfant, mais il parle de « au commencement était le Verbe ». Et donc, lui, il parle du point de vue de Dieu et comment le Christ, le Verbe, le Fils de Dieu éternel, s'est incarné sur terre. Et donc, il habitait parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, on a vraiment cette incarnation fait chair, et c'est le mot très prosaïque « chair ». On est très dans le... Voilà, c'est pas une figure de l'esprit. C'est vraiment incarné. Donc ce prologue, c'est tout comme les évangiles de la Nativité chez Saint Luc. On a vraiment ces deux éclairages avec cette vision à la fois transcendante de Jésus, mais avec un parti pris qui est d'une christologie où on part d'en haut pour arriver à l'incarnation, et où pour Saint Luc, où on monte de tout ce qui se passe de façon très humaine pour remonter vers la gloire de Dieu et le chant des anges. Et finalement, c'est imbriqué, c'est-à-dire qu'on a vraiment c'est la pauvreté qui, quelque part, manifeste la gloire du ciel. Donc on n'a pas une antinomie, mais on a une sorte de voilà, comme si ça saisissait ensemble. Et donc je vous mentionne un très beau chant de Contaction de Romanos le Mélone, donc un vieux cantique de la nuit de Noël. « La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent, et les mages avec l'étoile s'avancent, car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. » Et en fait, sur chaque petite partie de cette de ce cantique, eh ben on a voilà l'opposition entre le, enfin l'opposition, le fait que en Jésus on n'a justement pas l'opposition, on a ensemble un vrai homme et un vrai Dieu, et qui plus est en vrai homme un bébé quoi, donc vraiment un tout petit. Alors dans un deuxième temps, on va voir, si vous avez des questions, je propose que vous les gardiez pour la fin, comme ça ce sera plus simple peut-être à gérer. Dans un deuxième temps, on va parler de la croissance et de la perfection. On va partir de la phrase de Saint-Luc qui dit « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». Alors on est quand même un peu surpris, si on prend 2 minutes le temps de se poser, c'est quand même incroyable comment Dieu fait, homme peut grandir. Et non seulement grandir en taille, ça encore peut-être le comprendre, mais en sagesse et en grâce. Là, on se dit, c'est quand même pas du tout, ça le fait pas, quoi. Alors, déjà, première difficulté, c'est que ça vient d'une vision très négative de l'enfance, qui était celle de l'Antiquité. On le voit dans Saint Paul, quand il dit « Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. » Donc, il y a un progrès, quelque part. L'enfant n'est pas abouti du tout et n'est pas... oui, vraiment une vision négative. D'ailleurs, c'était très curieux parce que dans les premières représentations artistiques, en fait, Jésus enfant est souvent représenté avec une tête d'adulte. C'est pas que les peintres étaient particulièrement mauvais pour peindre un enfant, mais ils avaient du mal à se dire que Jésus n'était pas, enfin, pouvait être un enfant, quoi. Il y avait quelque chose d'inconvenant pour eux. Voilà. Alors, on peut, comme je vous le disais, on peut penser effectivement le corps qui grandit. Ok, il est devenu bébé, donc il faut bien qu'il grandisse. Ça paraît évident. On voit aussi, on a une sensibilité là-dessus, que la beauté, on peut dire, d'un enfant qu'il est beau comme d'un adulte. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas lié à l'âge et au fait de grandir. Pour l'intelligence, on est un petit peu plus... Voilà, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'ignorance est souvent associée à une faiblesse, au fait de ne pas savoir, voire au mal. Ignorer quelque chose, c'est pas un bien, quoi. Voilà. Et le problème est surtout grave, parce que pour ce qui concerne l'identité du Christ... Est-ce qu'il a su ce qu'il était? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit Dieu dès la conception? Est-ce qu'il savait qu'il était? Est-ce qu'il a découvert progressivement? Donc en fait, on a vraiment, et ça c'est l'affirmation de l'Église, on dit vraiment que Jésus a eu... que si Jésus n'a pas eu cette conscience d'emblée de sa relation au Père, qu'il était le fils du Père du Ciel, il ne peut pas être le fils, quoi. Enfin, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, on doit tenir ça, et c'est intéressant de voir qu'à l'épisode de 12 ans, quand il est au temple, eh ben, il assume ça justement, il dit « je dois être aux affaires de mon père ». Donc il est encore un enfant à 12 ans, grand enfant mais quand même. Et donc il y a cette conscience qui n'est pas un savoir omniscient, mais qui est cette conscience qu'il est fils du père et qu'il a une mission. Alors, dans le cours précédent, j'avais un tout petit peu mentionné déjà saint Thomas d'Aquin, qui dit qu'il y a 3 sciences dans le Christ, en plus de la science divine. C'est quelqu'un de très complet, Jésus-Christ. Donc, il y a la vision béatifique qui lui fait voir toute chose dans le Père. Donc, celle-là, c'est celle qu'il a tout le temps, et c'est celle qui lui fait connaître qui sait qu'il est le fils du Père. Mais c'est pas pour ça que ça emplit tout son champ de son savoir humain. Donc, c'est une vision béatifique, mais qui n'est pas... qui ne veut pas dire qu'il sait tout, quoi. Il y a la science infuse. Donc, c'est un peu comme les prophètes, parce qu'il a l'Esprit Saint. Donc, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il anticipe des choses, ou il sait lire le cœur des personnes, par exemple. Et puis, il y a la science acquise, où Jésus a appris, et concrètement, il a appris à prier sur les genoux de Marie. Donc, il a appris à le métier de charpentier, il a appris à lire, il a appris, donc il a appris. Voilà. Et donc, Dieu fait homme, peut apprendre quelque chose. Donc, comme fils éternel, il reçoit tout du Père, sa divinité, sa toute-puissance, son omniscience, quelque part. Mais comme homme, il reçoit de Dieu et des hommes ce qui est nécessaire à sa mission. Donc, en fait, il est toujours dans un mode de réception, parce qu'il est le fils, aussi bien dans la Trinité que ici-bas, enfin que sur Terre. Et donc, il reçoit, mais il reçoit parfaitement. Et donc, on voit toujours dans cet épisode du Temple qu'il pose des questions, mais ces questions sont particulièrement justes et profondes, et les gens l'admiraient pour ces questions. Donc, c'est pas qu'il savait tout, mais il posait des vraies questions, et des questions qui étaient mûries, quelque part, de cette imprégnation de l'Esprit-Saint. Alors, c'est aussi parce qu'on a une version de la perfection qui est souvent associée à une idée d'achèvement, de complétude. Alors qu'en fait, la perfection en Dieu est plutôt le parfait ajustement, la parfaite justesse Et donc, on peut très bien parler d'une croissance parfaite. Voilà. On peut être en croissance et parfait. Et donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est la croissance sans péché, ajustée au Père et parfaite. Donc, je le redis, Jésus n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout comme s'il avait un cerveau qui pouvait voir tous les temps, tout ce qui allait se passer partout dans le monde, etc. Pas du tout. Il est un vrai homme. Donc, il accepte cette part d'ignorance qui, d'une part, n'est pas nécessaire à sa mission. Donc, ça tombe bien. Et puis, parce qu'il est en tant qu'homme, il assume cette humanité. Donc, il apprend jour après jour. Voilà, mais ce que je disais, c'est qu'il peut percevoir le cœur humain. Donc, il a anticipé un certain nombre de choses. Et donc, faire les bonnes conclusions. Il a assumé l'histoire, le temps. Et ça, c'est important parce que sinon, l'humanité, c'est pas vraiment assumé. Et donc, nous sommes inscrits dans le temps. Et le temps est bon. C'est dans le temps que s'exerce notre liberté. Et donc, Jésus, il a expérimenté ça aussi. Donc, ce temps et ce fait qu'il y ait du devenir et donc qu'il y ait des manques et des limites humaines, mais qui a aussi cette faculté de croître et de grandir. C'est aussi parce qu'on a une vision dans la Trinité, en Dieu, on a l'impression que tout est statique, au sens rien ne bouge pas, mais il y a quand même une dynamique. L'amour, il est dynamique, il n'est pas, c'est pas quelque chose de monolithique. Et donc la vie spirituelle de Jésus homme, est en mouvement, qui n'a de cesse, tout comme il l'était quand il était dans la Trinité en fait. Et donc, la différence, peut-être, c'est que dans la Trinité, tout est immédiat, plein et parfait. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme s'il y avait voilà, on voit tout d'un coup, quoi. Tout est là, présent, au même moment, dans le présent de Dieu. Alors qu'en tant que Dieu, ben, il reçoit divinement du Père, et puis sa connaissance humaine, elle grandit. Donc, voilà, il pose des questions, il écoute, il apprend, et il grandissait en grâce et en sagesse. Donc, en fait, on a la transposition de sa relation dans la Trinité où il reçoit. Dans l'humanité, ben, il reçoit aussi, en fait. Et dans le mode humain. Alors, un autre aspect quelque part, de Jésus qui a accepté ses limites, et donc cette croissance, c'est aussi l'obéissance. Et l'obéissance, c'est éminemment ce qui va conduire au salut, ce qui permet le salut, puisque c'est la désobéissance de l'homme qu'il avait coupé de Dieu au paradis, jardin d'Éden initial. Et donc, c'est l'obéissance de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, l'obéissance à son Père, qui va être cause de notre salut. Et donc, pour pouvoir être obéissant, bah, il faut aussi, quelque part, avoir une certaine forme d'ignorance. Sinon, c'est une fausse obéissance, en fait. Ça veut dire qu'on a la maîtrise de tout, donc on n'est pas dans l'obéissance. Donc, ça suppose, pour qu'il y ait une vraie obéissance, qu'il y ait une forme d'ignorance. Donc, Jésus avait accompli et vécu en perfection l'attitude que Dieu le Père attend de l'homme. Et Jésus joue filialement, divinement, sur l'instrument humain désaccordé par le péché, mais sans tricher. Voilà. Donc, il ne fait pas semblant d'être un homme, il ne fait pas semblant de ne pas savoir. Il est pleinement humain, et donc, mais il en joue divinement. Donc, il le joue dans la perfection de son humanité, quelque part, puisqu'il est sans péché. Alors, la phrase dans la lettre aux Hébreux, « Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. » Et donc, on a bien ce devenir, conduit à la perfection. Il y a une sorte de croissance, d'évolution. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Donc on a bien cette obéissance qui se décline dans le temps et qui aboutit et qui permet le salut. Alors nous, on est avec notre petite tête, on oppose souvent science et ignorance. Si on est ignorant, c'est qu'on ne sait pas, et si on a de la science, c'est qu'on n'est pas ignorant. Mais en fait, ça voudrait dire qu'on pense, en tout cas la science divine, sur le modèle de la science humaine. Mais c'est pas exactement le mode de la science de Dieu. Dieu, il n'apprend pas les choses, puisqu'il connaît parce qu'il crée, en fait. Donc, c'est pas comme s'il était à l'extérieur qui contemplait quelque chose et qui se dit « Ah bah tiens, oui, je comprends ce que ça veut dire ou je connais. » Non, lui, il est dedans, puisque c'est de lui que c'est créé, en fait. Donc, c'est comme si ça débordait de lui. Donc, en fait, il les fait exister. Donc, il n'y a pas ce mode de connaissance qui a avec cette extériorité, en fait, Donc Dieu, il n'a pas la science divine, elle se passe pas vis-à-vis, elle n'est pas extérieure, elle est vraiment dedans, en fait. Et donc on a Jésus humain, il peut avoir à la fois la science divine, qui est cette sorte d'immédiateté et de ce qu'on appelait la vision béatifique, et puis la science humaine, où là, il va apprendre des choses qui lui sont extérieures. Voilà. Et donc, on n'a pas de concurrence entre ces attributs divins et attributs humains en Jésus, puisqu'on n'est pas du tout sur le même plan. D'un côté, on a cette connaissance de qui il est, finalement, et c'est ça, c'est la vision béatifique, c'est qu'il sait qu'il est le Fils du Père et qu'il a une mission à remplir. Et en retour, il se met en obéissance, et donc il utilise son intelligence humaine, tout imprégné de l'Esprit Saint, pour essayer de réaliser cette mission-là et répondre au Père. Voilà, et donc on a un savoir qui n'est pas un savoir intellectuel, mais qui est un savoir lié à sa mission et qui est beaucoup plus proche de l'être, en fait. Voilà. Après, une autre partie qui est intéressante sur la croissance et la perfection, c'est devenir enfant. Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il parle de la grâce capitale en tant que le Christ est la tête du corps mystique. Et en fait, cette grâce, grâce capitale que le Christ a, en fait, elle croît aussi avec les membres agrégés que nous sommes. Et donc, il y a une forme de croissance qui est donc là, en tant que Jésus tête du corps mystique, et c'est évidemment nous qui croissons. Mais il y a aussi cette dimension, enfin, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en fait, il faut devenir enfant par rapport à Dieu. Et c'est la condition pour entrer dans le royaume, avec tous les travaux thématiques, sur tout ce qui est sur les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, il faut devenir enfant pour entrer au royaume. Il faut naître d'en haut, ça c'est tout le discours avec Nicodème dans Saint Jean. Naître d'en haut, naître de Dieu. Donc il y a cette idée de naissance, d'enfance, qui est nécessaire pour entrer dans le royaume et finalement pour bénéficier du salut et qui nous met dans la posture de Dieu, du Christ, pardon. Donc comme il était enfant. Donc le mystère de Noël, il s'accomplit en nous lorsque le Christ prend forme en nous et quelque part quand il prend forme comme un enfant aussi. Noël, c'est l'admirable échange entre le créateur du genre humain assumant un corps et une âme qui a daigné naître d'une vierge et devenu homme sans l'intervention de l'homme, il nous a fait don de sa divinité. Donc c'est toute la thématique de l'échange où Dieu fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Sur la partie des 30 ans, enfin si on depuis enfin, dès que Jésus est un peu plus grand, en fait, sur les années cachées, on n'a que l'événement de Jésus au temple à 12 ans. Donc, c'est le seul événement qui nous est rapporté de ces 30 ans, de 29 ans, on va dire, de silence. Et c'est intéressant parce que ça nous montre à la fois, c'est un point d'étape, 12 ans en plus, c'est une étape un peu importante pour les... Voilà, qu'on devient adolescent. Et il y a quelque chose de comme un jalon de cette mission qui, à Noël, était reconnue plutôt par les mages, par Siméon, par les autres, finalement. Et là, c'est Jésus qui dit sa mission, en fait. Donc, il annonce, ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père. Et on a Marie et Joseph qui ne comprennent pas cette parole, mais qui l'accueillent dans la foi. Et donc, on a aussi une forme d'obéissance de Marie et Joseph. Donc finalement, on a l'obéissance de Jésus à ses parents, qui en cela fait exactement un des 10 commandements, sur honore ton père et ta mère. Mais on a aussi finalement l'obéissance de Marie et Joseph à Jésus, qui les dépasse dans cette... homme-Dieu, et qui est au-delà de ça, et qui est surtout imprégné de cette mission-là, et qui ne comprennent pas tellement. Et là, on a un peu ce que vont vivre les disciples aussi, dans la vie publique, où ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Et finalement, c'est ça qu'on est, quand on dit qu'on doit devenir enfant pour entrer dans le royaume des dieux, c'est cette forme d'obéissance qu'on doit retrouver, donc se faire comme un enfant qui obéit à ses parents, et là on doit se faire obéissant à Jésus pour pouvoir entrer dans ce mouvement où, avant de tout vouloir comprendre et tout vouloir maîtriser, il faut d'abord s'abandonner et faire confiance. Alors, dans la dernière partie, je voulais parler de la vie cachée. Et donc, pourquoi est-ce que ça peut nous inspirer pour notre foi? C'est pas forcément, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément beaucoup médité sur la vie cachée et ses 30 ans. Sa vie à Nazareth, en plus, Nazareth, c'est pas une ville qui parle beaucoup, même quand on fait un pèlerinage en Terre Sainte. Nazareth, ça fait quand même la grande ville où il n'y a pas grand-chose. Il y a la basilique de l'Annonciation, bien évidemment, mais il n'y a pas, c'est pas aussi riche que Jérusalem. Ça peut être source d'inspiration. Alors tout d'abord, c'est important parce que Jésus a sanctifié les réalités humaines et donc il a partagé la condition de l'immense majorité des hommes. Une vie quotidienne assez simple, une vie de travail, une vie religieuse juive soumise à la loi, une vie dans la communauté, une vie avec ses parents, une vie familiale. Donc on n'est pas dans une vie très extraordinaire, mais dans une vie un peu ce que tout le monde pourrait vivre, plutôt assez simple d'ailleurs, et puis qui a duré. Dieu prend son temps. 30 ans de vie cachée, c'est conséquent, on se dit pourquoi si longtemps. C'est parce que Jésus, il a un vrai homme, et donc il va suivre le parcours de tout homme, du fœtus jusqu'à l'homme adulte. Voilà. Et ça sanctifie aussi le temps, puisque ça sanctifie toutes les étapes d'une vie, avec tout ce qui peut se passer dans toute cette vie humaine. Donc il y a un vrai prise au sérieux par Dieu de l'humanité. Donc ça, je vous en ai déjà parlé sur le quatrième commandement. Donc il y a l'obéissance, effectivement, aussi dans cette vie cachée. Donc on peut apprendre de ça, pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans la quotidienneté. Et tous les jours, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça, c'est important que ce soit quelque chose qui imprègne notre vie tous les jours et pas seulement dans les grands moments. Alors, il y a l'idée de 30 ans aussi qui peut être aussi un symbole de la maturité, d'une sorte de plénitude, de taille, d'expérience, de foi, qui est un peu qui est en harmonie avec la mesure du projet. Ça, une fois qu'on a dit ça, c'est une interprétation, c'est pas plus que ça, mais il y a quelque part l'idée d'attendre qu'il y ait une forme d'amplitude, d'avoir expérimenté des choses et qu'on ait atteint une certaine maturité pour remplir sa mission. En tout cas, ça nous apprend la patience, ça c'est sûr. Alors, je vous lis un petit texte de saint Irénée contre les hérésies. Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait homme, il a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes et nous a procuré le salut en raccourci, de sorte que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le recouvrions dans le Christ Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi le Christ est passé par tous les âges de la vie, rendant par là à tous les hommes la communion avec Dieu. Bon, bémol près qu'il n'a pas été vieux, donc 32 ans, ça reste homme adulte. Mais il y a quelque chose de pour que, on dit tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et donc le fait que le Christ ait connu une vie dans différents aspects, dans différents âges, c'est important aussi dans cette dimension qu'il a embrassé vraiment une plénitude de vie. Alors après, un deuxième point un peu différent pour méditer sur la vie cachée du Christ, c'est aussi que finalement, Pâques et l'Épiphanie, c'est vraiment les deux foyers de la vie liturgique, comme si on avait une ellipse, et un cycle. On a ces deux fêtes qui sont les clés de voûte, qui sont celles qui ont émergé en premier dans les origines chrétiennes dans la liturgie, et qui sont enrichies des deux côtés, c'est-à-dire que avec la Pâques, il y a un certain nombre d'événements, de la Passion, etc. Et puis côté Épiphanie, il y a Noël, il y a l'adoration des mages jusqu'au baptême. Donc on a vraiment ces deux portes d'entrée, deux foyers de la vie liturgique, et qui sont comme les deux côtés une porte sur le mystère chrétien, et qui synthétisent toute l'économie du salut. On a l'Épiphanie, en fait, qui est comme un mouvement de Dieu vers l'homme, destiné à lui révéler son vrai visage. On a le Verbe qui descend sur terre, comme la rosée, elle s'abaisse jusqu'à devenir un enfant. Ensuite, il est manifesté de façon plutôt privée par les mages, qui sont d'ailleurs pas, qui sont extérieurs au judaïsme, et puis par Siméon et Anne, par contre, eux qui sont au temple, donc ils sont tout à fait de la tradition juive. Puis ensuite, il y a la manifestation publique au baptême. Donc on a tout un mouvement, en fait, où Dieu se fait petit enfant, il est reconnu de façon privée, de façon publique, avant de pouvoir initier sa mission. Et puis dans Pâques, on a le mouvement finalement un peu inverse. On a le retour de l'homme vers Dieu avec Jésus, à partir de la résurrection du Fils et à travers le Christ, toute l'humanité. Et donc on a Jésus qui s'abaisse jusqu'à mourir sur la croix, donc en miroir de l'abaissement dans l'incarnation, qui est reconnu aussi de manière privée par les disciples et par exemple par le centurion romain au pied de la croix. Aussi avec des disciples qui sont juifs, et puis le centurion qui lui n'est absolument pas du monde juif. Et puis la résurrection qui est la manifestation publique avec des milliers de témoins, et puis finalement toute l'Église aujourd'hui, les évangiles, voilà, et la remontée au ciel. Donc on a un peu ces deux effets miroirs qui peuvent nous aider à méditer sur deux formes d'abaissement, deux formes de retour au ciel, deux formes de Dieu qui vient rencontrer l'humanité, de forme d'obéissance aussi, je ne l'ai pas mentionné là, mais on en a beaucoup parlé déjà. Et donc, ils sont comme deux grands mouvements qui peuvent nous faire prier sur cet amour de Dieu qui va jusqu'à se faire homme. Alors après, je vous ai mis un petit texte de Paul VI sur Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'évangile, une leçon de silence d'abord, que naisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, une leçon de vie familiale, que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable, une leçon de travail, Nazareth, ô maison du fils de charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain, comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer le grand modèle, leur frère divin. Donc c'est ce qui m'a touchée dans ce texte de Paul VI, c'est vraiment cette idée de silence, d'enfouissement dans la vie très, très ordinaire et dans ce silence, et qui peut nous... Voilà, être source de... Parce que c'est par là que ça passe pour pouvoir faire des choses et offrir notre vie. Et un autre texte de Saint Jean Eudes, nous devons continuer à accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église, car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Et Saint Jean Eudes, comme tradition aussi avec Bérulle, voilà, ils ont beaucoup prié sur ces différents mystères de Jésus, y compris donc les mystères de la vie cachée. Ou comment est-ce que, voilà, de rentrer dans la façon dont Jésus a vécu ça, pour essayer, nous, de mieux vivre ce que nous devons vivre, en fait. Donc il y a cette idée de contempler ou de se mettre à la place de Jésus pour voir comment il a vécu tout ça, ces mystères, pour nous-mêmes grandir dans cette proximité avec Dieu. Et c'est très très vrai sur les mystères de la vie cachée ou les mystères de l'enfance. Alors ensuite, une partie qui est plus sur la... Donc là, c'est un texte que le Père Giton a mis dans une revue Résurrection qui était beaucoup sur l'épiphanie et l'enfance de Jésus. Donc c'est l'idée de l'abaissement de l'homme pour faire de la place à Dieu, qui est symétrique de l'abaissement de Dieu qui se fait homme, en fait. Et donc méditer le mystère de l'abaissement par l'incarnation de Jésus, pour nous méditer sur comment nous, quelque part, nous vider un peu pour faire de la place à Dieu. Et donc il y a une forme d'abaissement. Je vous lis le texte. Jésus, par l'onction de l'Esprit dans le sein de la Vierge Marie, devient le religieux de Dieu. Son être homme est tout entier un être pour Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'entend dire en entrant dans le monde « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Loin de séculariser Dieu, il implante dans le monde une greffe de sainteté. Lors de la fête de la présentation, l'insistance mise sur l'obéissance à la loi que manifestent Marie et Joseph dans tout cet épisode nous donne l'indication de ce que sera la mission du Sauveur. En venant parmi les hommes, il partage avec eux ce qui est le mouvement profond de son être, l'abaissement devant la majesté divine, le Père est plus grand que moi. Il rejoint ce qui est le fond de l'être humain, être fait pour Dieu. Il ne trouve qu'en lui son repos, Saint Augustin. La présentation de Jésus est une première forme d'oblation qui a pour cadre le temple. Le prêtre Siméon, en élevant l'enfant, le présente à son père comme la véritable offrande. La phrase dite à Marie pour lui annoncer le glaive de douleur qui va transpercer son âme renforce la conviction que la venue de Jésus entraîne avec elle une oblation nécessaire. Siméon lui-même, en acceptant sa mort du moment qu'il a vu le Messie, va dans le même sens. Et donc, quand on contemple Jésus qui s'abaisse dans l'incarnation, en fait, on prend le même mouvement pour aussi s'abaisser devant d'abord la majesté du Père, et aussi pour quelque part faire cette offrande de nous-mêmes et laisser de la place à Dieu. Et alors pour finir, je vais donc finir ce cours avec Charles de Foucault. Donc lui, il a beaucoup remis à l'honneur, puisqu'il a passé beaucoup de temps à Nazareth. Il a passé, je crois, moins 2 ou 3 ans à Nazareth. Il était dans le couvent des Clarisses. Il était comme jardinier tout au fond, dans une cabane au fond du jardin, qui maintenant est un petit oratoire, avec des frères de... Je ne sais plus comment on les appelle. Il écrivait des méditations sur la vie de Jésus et les vertus chrétiennes. Et donc, il a beaucoup médité sur la vie cachée de Jésus, sur cette vie à Nazareth, en fait. Et donc, pour lui, c'était un modèle de sa propre vie, de solitude, d'humilité, de pénitence, de pauvreté. Donc, il souligne que cette intense communion entre Jésus, Marie et Joseph, leur continuelle vie de prière et de travail, comme aussi la soumission filiale de Jésus à ses parents, voilà, tout ça, ça conditionne une vie qui peut être donnée et qui peut être un modèle pour notre vie. Voilà. Et la vie de Jésus à Nazareth, c'est vraiment ce qui a irrigué toute sa réflexion et tout son itinéraire spirituel, cette vie cachée à Nazareth, voilà, où il a souhaité vivre un certain temps. Je vous ai mis là un petit extrait là, mais derrière il y a tout le texte de Charles de Foucault, où il y a moins de 3 pages, sur cette méditation, cette retraite qu'il a fait à Nazareth, enfin une des retraites, et où il a écrit toutes ces choses-là, et donc qui est un peu une méditation sur cette vie invisible, cette vie en Dieu finalement, et cette vie en contemplation et en silence. Alors en conclusion, ce que je voudrais... Je remonte un tout petit peu, j'ai été trop vite. En fait, le dessein de Dieu, c'est pas seulement de se faire connaître, donc c'est pour ça que c'est aussi de se faire connaître et de se faire connaître non seulement par c'est pas une doctrine quoi, mais de se faire connaître dans l'être, enfin voilà, qui il est. Dans la première préface de Noël, on nous dit « La révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. » Donc, toute cette dynamique entre l'invisible rendu visible, mais qui reste le Dieu, le tout autre, c'est toute la splendeur de l'incarnation. Avec tout ce prosaïque, comme on a vu, ces choses très concrètes de la naissance de Jésus, et puis en même temps, cet Dieu invisible qui se donne à voir avec toute la transcendance et toute la gloire de Dieu. Voilà. Et le thème de la lumière à l'épiphanie est très symbolique de ça, c'est-à-dire qu'il est, il éclaire, mais il éclaire aussi nos ténèbres du péché, donc il repousse aussi ça, mais on peut aussi ne pas accepter cette lumière parce qu'elle est aussi dérangeante. Voilà. Donc il y a quelque chose de la mise en lumière qui est un peu cru, et qui est aussi cette dimension de la gloire qui est, comme on dit, la lumière qui fait reconnaître les choses et qui oblige à choisir, en fait. Et donc, il y a toute cette thématique de la lumière dans toute la vie, enfin, en tout cas, de l'enfance de Jésus, qui est très importante pour nous montrer le cœur, finalement, de Dieu. Et aller au cœur de Dieu. Quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de ta divinité. Donc on a vraiment cette rencontre du Dieu invisible dans la pauvreté. Crèche, c'est tout petit. C'est tout, voilà, c'est une étable même, parce que crèche, déjà, c'est un mot qu'on a mis dessus, mais enfin, c'est une étape, quoi, tout simplement. Et qui nous invite, en fait, à être dans cette lumière... qu'on ne peut supporter que si on est un pauvre en esprit ou un enfant, donc on revient sur l'importance de la dimension de l'enfance, pour pouvoir justement vivre de cette lumière. Sinon, elle est intolérable, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. En espérant que je ne vous ai pas complètement perdu. Alors, j'ai mis beaucoup de références, parce que ça permet après d'avoir les textes et pas chercher,
Donc ce petit topo, là, on pourra l'avoir ?
Je vous l'envoie tout de suite. Vous l'aurez en audio et en...